Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à vous qui êtes venus sur Révélation Bible un vendredi, vous avez mis votre code, vous avez fait tout ce cirque, c'est un peu difficile hein, tout ça, mais ça montre votre détermination à vouloir apprendre encore et encore et encore au sujet des choses de Dieu. Je voudrais que nous fassions une lecture dans Matthieu chapitre 25, versets 21 à 28. Je lis. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Ce soir, je voudrais aborder un sujet important, nos limites dans l'exercice de notre prêtrise. L'histoire de cette femme va nous aider à comprendre bien des choses. Ce jour-là, Jésus était hors de son champ d'activité. Jésus était dans la région de Tyr et de Sidon, il n'est donc pas en Israël. Il est en Phénicie. Alors, on le voit d'autres fois. On le voit, par exemple, une autre fois à Gadara et une autre fois, une troisième fois, à Césarée de Philippe. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans ces contrées, dans cet endroit-là? Lui qui a dit qu'il a été envoyé aux brebis d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il va dans ces endroits-là, alors? Eh bien, Marc nous l'apprend, parce qu'il ne faut pas lire qu'un évangile, il faut lire aussi dans les autres évangiles, parce qu'il y a des subtilités qu'on y découvre. Eh bien, dans Marc 7, on apprend pourquoi est-ce qu'il avait été là-bas. Parce que Marc nous raconte la même histoire et il ajoute qu'il cherchait à se cacher. Jésus cherchait à se cacher. La notoriété, la pression des religieux, toutes ces histoires. Alors, il cherchait à se cacher. Jésus se rend donc là, dans la région de Tyr et de Sidon. Et je vous rappelle que cet endroit, c'était le lieu d'origine de la sinistre Jézabel. Ça vous dit quelque chose? Et c'est aussi, par exemple, c'est positif, là c'est négatif, mais positivement, c'était aussi l'endroit où Élie avait trouvé refuge chez une veuve à Sarepta. Vous vous souvenez? Puis un jour, Jésus a niaxé les religieux en leur disant, mais du temps d'Élie, il n'y a eu qu'une femme, elle n'était pas juive, hein. Dieu a envoyé le prophète, c'est pas vers une juive, vers une veuve, pourtant il y en avait des veuves, et il les faisait mousser comme ça. Et voilà l'endroit où Jésus va se cacher. Maintenant, là, il y a une femme dont Matthieu dit que c'est une cananéenne. Alors cananéen, c'était les gens, les ennemis, n'est-ce pas, les ennemis héréditaires d'Israël. Mais c'est une cananéenne bizarre parce que elle emploie un terme qui est typiquement juif, fils de David. Fils de David. Bon, elle avait plusieurs problèmes, cette brave dame. Premièrement, elle était une femme. Et puis à l'époque, c'était déjà pas très confortable d'être une femme dans cette région-là. Et oui, même encore aujourd'hui, c'est terrible. Si vous lisez attentivement l'évangile de Matthieu, vous allez découvrir que deux femmes ont osé interpeller Jésus. C'était, pour ainsi dire, ça ne se faisait pas. Une femme n'interpellait pas un homme. La première, c'est notre femme là, la cananéenne, et la deuxième, c'est la mère des fils de Zébédée. Vous rappelez l'histoire. Alors, elle est femme, et en plus, elle est étrangère. Ça fait déjà deux choses. Alors, Marc l'appelle la syro-phénicienne. Matthieu l'appelle la cananéenne, c'est-à-dire l'ennemi d'Israël. Elle est femme, elle est étrangère, et elle est une mère qui est dans la souffrance. Sa fille est tourmentée par le démon. Alors, elle a deux possibilités. Soit elle s'enferme dans la résignation, ou alors elle s'engage dans la révolte. Non, elle choisit l'autre dimension, c'est-à-dire elle ne cède ni à la résignation ni à la révolte, elle prend le chemin étroit de la prière. La prière, c'est un chemin étroit. Alors pour prier Jésus dans ces circonstances-là, il fallait beaucoup d'audace et beaucoup de volonté. Parce que la plupart du temps, bon, par exemple, la femme à la perte de sang, bon, il y avait plein de monde, c'était là, elle s'est glissée, bon, c'était voilà, il y avait toujours la foule et tout. Mais là, elle était toute seule, elle est venue toute seule, il n'y avait pas la foule, elle s'est mise bien là comme ça, et puis elle s'est mise à prier. Il fallait de l'audace, beaucoup de volonté, parce que pour arriver à Jésus, c'était difficile. Il voulait que personne ne sache où il était. Il voyageait incognito. Il voulait rester caché, c'est ce que Marc nous dit. Et la voilà qui crie, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Alors Jésus répond, pas un mot, pas un mot. Il est avec ses disciples, je pense qu'ils sont en train de marcher, puisqu'il nous dit qu'elle était derrière. Elle criait sans arrêt. Et moi, à sa place, au bout d'un moment, peut-être que j'aurais renoncé, j'aurais peut-être dit, « Bon, ben voilà, les circonstances ne sont pas favorables, bon, on verra ça un autre jour. » Peut-être pas le moment de Dieu, hein? Alors, est-ce que parce que les circonstances ne sont pas favorables, que c'est un signe du Dieu Tout-Puissant, comme quoi, bon, ben voilà, les signes pas favorables, les circonstances pas favorables, et alors c'est pas un signe de Dieu, ça n'a jamais été une indication de Dieu. La preuve, c'est que cette femme a reçu ce qu'elle était venue chercher, même si tout était contre elle, même si les circonstances étaient vraiment mauvaises. Et mes frères et sœurs, les circonstances sont en fait loin d'être des signes clairs dans notre existence mortelle, très loin. C'est pourquoi je dis toujours, c'est pas une preuve de maturité spirituelle que de chercher des signes et d'interpréter les choses qui se produisent en disant, voilà, c'est un signe de Dieu. Non, c'est pas une preuve de maturité. Frères et sœurs, c'est pas. Il y a des portes qu'il faut s'ingénier à ouvrir. C'était des circonstances difficiles, mais il fallait. Des fois, c'est difficile, mais il faut s'ingénier à ouvrir certaines portes et à saisir le trône de Dieu dans la prière. Puis il y a des portes ouvertes qu'il faut bien se garder de franchir, comme tout ce qui semble accessible et enviable, n'est-ce pas, mais qui s'oppose à la volonté de Dieu. Faut pas. Les circonstances ne sont pas favorables. Bon. Cela, c'est rechercher les signes dans notre vie, et c'est, comme je le dis toujours, une preuve, enfin, c'est une forme d'immaturité spirituelle. Dieu veut que nous exercions patiemment notre jugement, notre discernement, en sondant les Écritures, en voyant comment des hommes de foi, des femmes de foi, en sont arrivés à vivre ce qu'ils ont vécu. Et là, les circonstances étaient toutes travers, eh bien, c'était pas un signe que c'était pas la volonté de Dieu d'agir. D'accord? Même s'il disait rien, même s'il répondait pas. Les disciples ont eu marre au bout d'un moment d'entendre cette femme crier, mais ça veut pas dire qu'ils refusaient que Jésus accède à sa requête, pas du tout. Moi je pense que ça voulait dire plutôt, bon écoute, guéris-la, débarrasse-nous d'elle. C'est pourquoi Jésus leur dit, mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Pourquoi il leur dit ça? Parce qu'en réalité, quand on lit cette réponse de Jésus, on s'aperçoit que l'intonation qu'ils avaient, Jésus n'était pas « Fais la terre, dis-lui de se tailler », non, c'était « En quelque sorte, guéris-la, fais ce qu'elle demande, débarrasse-nous d'elle, elle nous casse la tête, on n'est pas tranquille ». Eux, ils veulent que Jésus la délivre, non pas parce qu'ils ont compassion, ce qui semble les préoccuper le plus, c'est leur tranquillité à eux. Vous voyez? Vous voyez ce qu'on trouve quand on médite les choses des Écritures? Quelles sont vos motivations? Vous voyez, je vous parlais de vos limites dans l'exercice de la prêtrise. Elles montrent les limites de votre ministère, vos motivations. Pourquoi? Le pourquoi. Alors, elle ne tient pas compte ni de ce que disent les disciples, ni de ce que ne dit pas ou ce que dit Jésus. Par contre, je connais bien des personnes qui se sont détournées du Seigneur ou de son Église, ou des deux d'ailleurs, parce que les disciples les avaient un peu mal accueillis. Voilà. C'est un petit peu terrible, hein, mais bon. Cette femme-là, non. Ça n'a pas compté dans sa balance. Alors, l'endroit où se trouve Jésus est intriguant. Cette femme, ça intrigue, c'est spécial, c'est pas comme tout le monde. Mais alors, l'attitude de Jésus, ça intrigue pas, ça choque. Carrément, moi, ça me choque. Hein, pendant longtemps, ça m'a beaucoup choqué. Et c'est pas que je sois naïf au point de penser que Jésus n'est pas capable de dureté, pas du tout, c'est pas ça, parce que quand vous l'écoutez invectiver les pharisiens, les scribes, 7-8 fois, je sais plus, il les traite de race de vipères, de malheur à vous, etc. Et puis, quand il chasse les marchands du temple, hein, c'était dur. Mais bon, dans ces deux cas, Jésus s'en prenait à des Nicolaïtes, c'est-à-dire à ceux qui abusaient le peuple, qui détournaient les institutions divines à leur propre profit. Alors, on pourrait dire, bon, ben là, c'est... Mais il n'y a rien de semblable avec cette pauvre femme-là. Regardons, contemplons la scène. Il y a un frère qui m'a écrit, il m'a dit, mais comment contempler la croix? Mais il suffit, mon frère, si tu m'écoutes là, que tu te mettes les yeux fermés, que tu penses, tu réfléchisses, voilà, je suis dans la scène, je suis là, sur cette colline, sur ce mont Golgotha, et puis tu imagines ce qui se passe là, et tu regardes, tu observes, comme si tu regardais la réalité. C'est ça, contempler. Contempler Jésus, contempler en regardant d'après les Écritures, n'est-ce pas, comme si tu regardes, réellement. Et là, contemplons, regardons cette scène. Premièrement, la réaction de Jésus aux supplications de cette femme. Réaction, silence. Il dit rien, pas un mot, rien. Cette absence de réaction, c'est pour ainsi dire unique. Bon, il a fait la même chose avec Pilate, mais il y avait d'autres raisons. Et une autre fois aussi. Il y a deux aveugles qui le suivent, tout ça, et il répond rien, puis c'est seulement arrivé à la maison qu'il les a guéris. Vous trouvez ça dans Matthieu 9, 27 à 31. Le silence, absence de réaction. La deuxième réaction de Jésus, exclusion de toute intervention en faveur de cette païenne. Waouh! La femme entend, elle entend ça. Elle entend cette phrase tomber des lèvres de Jésus, mais ça l'a fait progresser dans son intercession pour la fille, pour sa fille. Regardez-la, voyez-la, réfléchissez un peu. Elle avait entendu parler de Jésus, cette femme. Elle savait ce qui s'était passé. Et vous avez oublié, vous? Réfléchissez. Juste quelque temps avant, là on est dans Matthieu 15, dans Matthieu 8, c'est écrit qu'il a guéri le serviteur du centenier. Ce n'était pas un juif. Hein. Et à cette occasion-là même, il avait annoncé la participation des païens au banquet des noces. Alors quoi? Quand Jésus dit « Je suis venu pour les brebis d'Israël », il ne fait pas un nationalisme, une crise de nationalisme aigu. Pourquoi il parle comme ça? Est-ce qu'il cherche à provoquer? Non. Dans Matthieu 10, 6, quand il dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, vous allez lire la phrase, vous allez voir, il y a le petit mot, plutôt, c'est pas le chien de Mickey, hein, plutôt. Et ce mot plutôt nous fait comprendre que les juifs devaient être touchés en priorité, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas du tout y aller vers les païens, mais qu'il fallait mettre plutôt la priorité pour les juifs. Il n'y avait pas d'interdiction, il y avait juste une priorité, vous voyez. Alors ça nous apprend que c'est normal pour nous aussi, qui devons reproduire les œuvres, faire les œuvres de Jésus et même en faire de plus grandes, il est normal d'avoir des priorités, même pour l'amour, il y a des priorités. Jésus ne nous demande pas d'aimer tout le monde de la même manière. J'aime pas mon épouse la même chose que mes ennemis. La priorité, hein, si on devait faire une échelle, d'après ce qu'on lit des Écritures, ce qui est dans la tout à fait, ce qui est normal, ce qui est la norme, ben, la priorité, c'est premièrement la famille, ensuite les frères et sœurs, les amis, le monde, puis les ennemis. On n'aime pas tout le monde de la même manière. Même quelqu'un qui vient se repentir, qui vient vous demander pardon parce qu'il vous a offensé, vous le pardonnez, vous l'aimez, c'est vrai, mais vous n'allez pas tout de suite rétablir une relation exactement comme elle était avant. Vous marquez quand même un peu la différence, parce que vous êtes prudent. Jésus a dit, soyez prudent, faut être prudent. Quelqu'un qui vous a joué un tour, vous pardonnez, bien sûr, vous pouvez manger avec lui, aller à l'église avec lui, prier avec lui, tout ce que vous voulez, mais faut pas non plus retomber dans les mêmes pièges avec cette personne, sachant qu'elle a une faiblesse, c'est que voilà, quoi. Hein? Il faut donner la chance à cette personne qui vous a offensé, parce que vous l'aimez, de vous prouver qu'elle a vraiment fait acte de repentance. Alors faites attention dans ce que vous croyez être vos priorités. Voyez, les limites de notre prêtrise. C'est intéressant, n'est-ce pas? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça me parle, ce texte me parle. Ne fixez pas vos limites. Ciblez-vous les choses d'après le cœur de Dieu. Alors, il y a autre chose, moi, je me rappelle, j'ai travaillé pendant un temps avec les drogués. Alors, pendant qu'on travaillait avec les drogués, il y avait des gens qui venaient et puis disaient, oui, mais vous faites rien pour les alcooliques. On peut pas tout faire. Mais il y a aussi un danger, là. Il y a aussi un danger. C'est de se spécialiser. Alors, vous voulez une église de noir ou une église de blanc? Ah non, on peut pas faire ça, hein. Vous allez évangéliser qui? Les jeunes et les vieux, alors? Et les pauvres? Et les riches, alors? Alors, on a beaucoup de pauvres dans les églises, mais les riches, bon, ouf. Mais Jésus a dit, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Ben alors, il faut aller voir aussi un petit peu les riches. Quelles sont les limites de votre prêtrise? Il a dit aussi, considérez, mon frère, qu'il n'y a pas beaucoup de sages et intelligents parmi vous. Bon, ben, il faut aller les chercher, les intelligents. Hein? Pas se spécialiser dans toujours même catégorie de personnes. Enfin bon, ça je m'écarte un petit peu du sujet. Si vous aimez ceux qui vous sont sympathiques, quelle récompense vous aurez, Jésus dit une fois aussi. Attention donc aux limites qu'on se donne, et je crois que pour bien comprendre, il faudra que vous alliez lire Matthieu 5, 46, 47, ça va vous aider. Et puis, voilà la troisième réaction de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors déjà, il dit pas aux chiens, il dit aux petits chiens, c'est un peu plus gentil. De chien, mais quand même chien, c'est une insulte courante dans la bouche des juifs pour désigner les non-juifs. C'est un petit peu comme, vous savez, nos frères gitans, alors ils nous appellent les gadjos, les gadjés. Ouais, moi je suis un gadjo, voilà. Un gadjo, des gadjés. Alors voilà. Mais gadjo, ça signifie non-homme. Ah, ben, faut le savoir, hein, c'est pas très gentil, c'est un petit peu comme s'ils nous traitent d'animal, quoi. Mais voilà, les juifs, quand ils disaient chien, c'était la même chose, ils les traitaient de non-homme, d'animal. Et cette femme, elle encaisse. Elle encaisse. Elle surmonte l'obstacle. Et... Moi, je dis pas par là que tous les gitans sont conscients. La plupart ne savent même pas que ça veut dire non-homme. Hein. Bon, elle n'est pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est, voilà, c'est juste pour faire une comparaison des choses qui existent. Et cette femme, elle encaisse le choc. Elle surmonte l'obstacle. En fait, je dirais même plus, elle trouve un encouragement à persévérer. Ça la booste. Que fait Jésus? Est-ce que cette femme arrive à la convaincre de changer d'idée? Non, pas du tout. Non. C'est que Jésus est un subtil et excellent pédagogue. Il prend cette femme là où elle est, là où elle sait qu'elle est, et là où elle croit que lui, il est. Il est juif. Il sait jusqu'où il peut aller avec elle sans que l'épreuve ne la détruise. Mais il veut pas nier tout ce passé culturel, il veut pas culturel, pardon, il veut pas nier les évidences. Elle n'est pas juive, il est juif, il y a donc un problème. Voilà, c'est à l'époque, c'est comme ça. Et il agit de la même manière avec nous dans toutes sortes d'autres circonstances. Alors, est-ce que nous avons le droit, nous, d'utiliser des procédés semblables? C'est la question, parce que il dit tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Eh ben, ça fait partie aussi de la prêtrise, mais je dirais quand même, il faut laisser ça plutôt à ceux qui ont un des cinq ministères, parce que il faut quand même beaucoup de sagesse, emprunter la voie de l'affrontement, voire du jugement pour susciter la foi et la faire grandir. Il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut être sage. Si vous lisez 1 Corinthiens 5, vous allez voir que Paul, lui, il a utilisé ce procédé. Si vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez voir comment il est dur avec ses frères. Mais c'était pour s'assurer par là qu'ils étaient réellement repentants. Hein? C'est une arme qu'il vaut mieux ne pas utiliser si on est immature. Alors évidemment, comment est-ce qu'on juge si on est immature? Tout le monde se juge d'après sa propre intelligence, donc tout le monde se trouve intelligent, donc on est un peu embêté là. Je pense que dans l'humilité, il vaut mieux ne pas utiliser ces choses-là. C'est subtil, il faut être subtil, et il faut être humble. Mais cela peut être manifesté, ça peut faire partie de l'exercice du ministère pastoral. Il peut arriver que cela soit nécessaire, parce qu'en fait, un pasteur, il ne fait pas que d'accompagner les brebis, il est aussi celui qui a un rôle d'autorité dans la communauté. Il est brebis aussi, il accompagne, mais il est aussi, il a un rôle d'autorité. Je sais que dans notre siècle, notre société de tiédeur, n'est-ce pas, on ne supporte pas cette idée de l'autorité pastorale, la mise à l'épreuve, le juge. Ah, mais tu me juges, frère. Ben oui. L'homme spirituel juge de tout, mais il faut qu'il soit spirituel, hein. C'est mal vu. Pourquoi est-ce que c'est mal vu, n'est-ce pas, la mise à l'épreuve et tout ça? Parce que l'Église, en ce moment, est tiède et elle suit les pentes maternantes de notre société décadente qui aime l'accueil, l'écoute, la médiation, n'est-ce pas? Mais ne veut donner aucune place à l'exigence, à l'enseignement, à l'arbitrage, parce que ces choses-là, l'enseignement, l'exigence, l'arbitrage, ce sont des choses plutôt qui ont trait à la fonction paternelle, non pas maternelle. Une société, n'est-ce pas, où il faut materner, n'est-ce pas? Alors, oui, bon, il a tué, mais c'est la faute de la société, il faut comprendre, l'air, enfin bon. Là, Jésus, il loue cette femme. Il dit, ta foi est grande. Jésus est positif au sujet de la foi de cette femme, et il est positif au sujet seulement de trois personnes, de la foi de trois personnes. Le centurion, justement, dont on parlait tout à l'heure, de la femme à la perte de sang, et puis de cette fameuse cananéenne. Par contre, il va avoir une réaction terrible quant à la foi de Pierre, homme de peu de foi, Matthieu 14, 31, homme de peu de foi. Alors, en quoi la foi de cette femme est grande? En quoi? Ben dans sa persévérance. Elle est comme la veuve dans l'histoire de la veuve et du juge inique. Hein, c'est pas que Dieu soit inique, mais voilà. La femme, elle peut percevoir que c'est un homme d'autorité et qu'il est inique. Mais elle va jusqu'au bout, elle persévère. Il faut toujours prier, toujours persévérer, jamais se lasser. Mais il y a plus que la persévérance. Il y a plus que la sagesse. Elle a une soumission au souverain maître. Elle a une soumission. Elle se prosterne. Hein? Elle se prosterne. Elle reconnaît donc la seigneurie incontestable de Jésus. Et puis il y a plus que sa persévérance et plus que sa soumission. Mes frères et sœurs, et c'est là, il y a de l'intelligence dans sa foi. De l'intelligence. À la parole dure de Jésus sur les petits chiens, elle répond en retournant la situation à son avantage. Bon, j'applaudis. Elle est intelligente. Sa foi est intelligente. Elle ne se laisse pas rebuter par les propos de Jésus qui sont très négatifs. Hein. Elle réussit à le faire parler dans un premier temps, parce que d'abord, il ne sort pas de son mutisme. Ensuite, elle se met à ses pieds. En fait, je dirais qu'elle est un peu comme, vous savez, quelqu'un tape à la porte, vous ouvrez la porte, hop, met le pied dans la porte. Donc voilà, cette femme, elle met le pied dans la porte, entrouverte, elle se faufile, elle veut y aller, elle veut. Hein? Elle accepte avec humilité le jugement du Seigneur, sans manifester la moindre révolte. Elle rend ensuite témoignage à la toute puissance de Jésus. Elle dit, bon d'accord, tu donnes le pain aux Juifs, c'est très bien, mais elle montre qu'elle est persuadée que quelques miettes suffiront à la guérison de sa fille. Donc, elle reconnaît, elle témoigne de la toute-puissance de Jésus-Christ. C'est magnifique. La foi de cette femme, elle a triomphé parce qu'elle a conduit cette femme à être humble. Et la Bible nous dit avec sa sobriété, alors même sa fille fut guérie. Voilà, pas d'émotion, rien, pouf. Alors même sa fille fut guérie. Alors, cette guérison est formidable. Ça a changé la vie de cette fille, ça a changé la vie de cette femme, ça a changé la vie de plein de gens tout autour. C'est grandiose, un miracle, c'est toujours extraordinaire, c'est merveilleux. Mais là, cette guérison, elle n'est pas au centre du récit de Matthieu. Matthieu veut nous faire comprendre autre chose. Il veut nous parler de la foi intelligente et persévérante de cette femme. Il veut que ce soit ça qui attire notre attention. La foi intelligente et persévérante de cette femme. Beaucoup trop de gens ont une foi stupide. Tout est possible à celui qui croit. Bon, ben vas-y, marche au plafond. Leur foi n'est pas intelligente. Vous me suivez? Alors, la foi, mystérieusement, prend parfois l'allure d'une lutte, d'un combat avec le Seigneur lui-même. Souvenez-vous de Jacob. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Hein, Genèse 32, 29. Ben, c'est là aussi une part de notre ministère, une part de notre prêtrise manifestée par la foi persévérante, intelligente et donc humble. Quelle que soit votre position, si vous êtes dans la position de celui qui exerce le ministère, dans la position de celui qui manifeste la prêtrise, dans la manifestation de celui ou celle qui vient prier. J'espère que cette prédication vous aura aidé à comprendre quelque chose pour que vous vous en sortiez bien. La persévérance et l'intelligence. La foi n'est pas idiote. Amen. Merci Jésus. Merci pour cette courte prédication. Et je te prie de fortifier la foi de chacun pour qu'il puisse recevoir ce dont il a besoin. Si c'est plus de sagesse pour pouvoir exercer la prêtrise, si c'est une guérison, si c'est un problème d'ordre financier, ou peu importe, une situation familiale ou quelque chose, mon Dieu, pour le travail ou quoi que ce soit, Seigneur, donne à chacun d'être persévérant et intelligent, humble. Merci Jésus. Amen. Amen.